Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, comment ça se passe chez vous? Bien, j'espère, Marianne Paquette, pour vous accompagner au cours de cette semaine. C'est l'émission « C'est bon pour la santé » qui débute pour les 30 prochaines minutes. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, je vous rappelle un fait, ou peut-être que je vous l'apprends, assez affolant, assez bouleversant. Plus d'un tiers des bébés, des enfants, des adolescents hospitalisés à Sainte-Justine, hôpital situé ici à Montréal, suite à un traumatisme, le sont pour soigner des blessures qui sont survenues à la maison. On parle ici de chutes, de brûlures, de coupures. Donc souvent, des accidents qui sont plutôt bêtes, hein, comme on dit souvent, des accidents, c'est tout bête, et qui pourraient être évités. En ce sens, le CHU Sainte-Justine et la Société des arts technologiques, qu'on appelle également SAT, ont créé tout dernièrement un outil technologique plutôt novateur. Ça s'appelle La Maison de Justin. C'est un jeu vidéo interactif en 3D qui vise à sensibiliser les parents aux dangers potentiels là, que l'on peut retrouver à la maison. Et tout ça dans le but de prévenir les blessures chez les enfants pour une meilleure santé de nos petits. Tout à l'heure, j'en parlerai avec Dr Marianne Baudin. Elle est chirurgienne pédiatrique et chef du service de traumatologie au CHU Sainte-Justine. Et puis peut-être que, tout comme moi, vous avez déjà entendu au cours de votre enfance vos parents dire « Va donc jouer dehors ». Et vous savez quoi? Ils avaient raison. Parce que en 2011, février 2011, il y a une équipe de chercheurs d'Angleterre, oui, qui a prouvé dans le cadre d'une étude très, très sérieuse que l'exercice physique dans un environnement naturel augmente davantage la santé physique et la santé mentale que l'exercice en salle, tout particulièrement l'exercice que l'on fait pendant la période hivernale. De façon plus précise, on parle de l'amélioration de l'humeur. Il y aurait également des effets positifs sur l'énergie, une baisse de la tension, de la confusion, de la colère et de la dépression. Tout ça pour vous dire que pour les personnes handicapées qui vivent soit avec un handicap physique ou un handicap intellectuel, c'est pas toujours facile de sortir à l'extérieur, notamment l'hiver. Pourtant, ils ne devraient pas avoir à s'empêcher de jouer dehors, de prendre l'air. Et c'est à quoi s'engage Kinadapt, qui propose une expérience de balade en traîneau à chien, également un contact avec la nature assez privilégié et un contact avec les animaux de la ferme. J'en parle à l'instant avec Carole Turcotte, cofondatrice de Kinadapt. Carole Turcotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de Kinadapt également, psychoéducatrice. On vous joint du côté de Rawdon. Est-ce qu'il vente autant qu'à Montréal là-bas?
Mais on est un petit peu plus froid. On a un peu de neige ici. On est à peu environ 50 minutes à 1 heure de Montréal.
Oui, voilà. Donc, toujours un petit peu plus frais. Carole, vous avez fondé avec votre mari Kinadapt en 2005. Lui qui est kinésiologue, vous qui êtes psychoéducatrice, je le disais. Tout ça pour rendre les balades de chiens en traîneau, de chiens accessibles. Est-ce que c'était ça le premier objectif au départ, de rendre le plein air accessible à tout le monde?
En fait, c'est vraiment notre objectif. C'est vraiment la nature même de notre entreprise, c'est de rendre accessible à tous ces activités de plein air. J'écoutais votre introduction par rapport à la base théorique sur les études qui ont été faites sur l'humeur. Effectivement, ça tient compte de ça dans notre entreprise. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, si on décortique Kinadapt, c'est Kina, c'est pour kinésiologie, donc l'étude du mouvement humain, adapté. Alors, le traîneau à chien est un accessoire de plus, mais nous, dans l'objectif premier de notre entreprise, c'était de rendre accessible à tous des activités de plein air. C'est sûr que du traîneau à chien, ce qui est merveilleux avec le traîneau à chien, c'est que même si vous êtes à mobilité réduite, vous vous pouvez faire du traîneau. C'est sûr que c'est pas vous qui allez conduire, mais vous pouvez être assis dans le panier, comme on dit, et profiter un peu de la plénitude qu'on peut retrouver en forêt, par exemple. Les personnes en chaise roulante n'ont pas cette chance-là souvent parce que ça prend quand même c'est pas sur des terrains plats et tout ça, donc ça peut être difficile. Alors, nous, ça a été vraiment un allié, si on veut, à offrir une plus grande offre de services en ajoutant le traîneau à chien, qui est un peu un accident de parcours parce que c'était notre activité personnelle, familiale, le traîneau à chien. Et comme on a toujours voulu adapter et on a travaillé beaucoup avec la clientèle en incapacité motrice, on s'est dit, mais c'est parfait.
Il y a de l'action chez vous, Carole.
Ce volet-là à notre entreprise.
Là, on peut dire que vous êtes directement dans l'action. On entend les chiens derrière vous, Carole. Donc, ça bouge constamment chez Kinada.
Oui, tout à fait.
Carole, comment une personne qui débarque chez vous en fauteuil roulant en plein hiver peut se déplacer sur le site? Qu'est-ce que vous offrez pour que tout ça soit possible?
D'abord, dès le départ, à la réservation, c'est bien important qu'on ait ces informations-là.
Mais...
vous pouvez pas débarquer de façon spontanée là avec les chaises roulantes. Il faut qu'on soit préparé à ça. Alors, quand une personne débarque chez nous en chaise roulante, ils peuvent circuler autour à l'accueil. Ça, c'est faisable. Mais si on a besoin de les transporter sur... on peut les transporter en motoneige à l'endroit où on fait les départs des chiens. Mais en général, le départ des chiens, si on a quelqu'un en chaise roulante, on va adapter le départ en fonction que la personne puisse partir de la façon la plus facile possible. Ça va demander des transferts, donc ça va avoir besoin des personnes accompagnateurs pour faire le transfert nécessaire si c'est d'une personne quadriplégique, par exemple.
Oui, il suffit de le mentionner lors de la réservation. Également, vous offrez... En fait, il n'y a pas de limite chez Kinana. Vous accueillez tout le monde, même des enfants, des adolescents qui pourraient avoir certains besoins spéciaux. À quoi ressemble, en ce sens, votre clientèle, Carole?
Vous avez raison. Il faut juste que ça ne soit pas des blessures récentes, là, parce qu'il faut que ça soit consolider les blessures s'il y a des blessures. Mais toute personne qui a une condition chronique, ils pourraient venir chez nous, puis ça peut aller des jeunes enfants jusqu'à des personnes âgées, par exemple. Mais l'important, c'est de vraiment de le planifier en fonction de leurs besoins. Donc, arriver spontanément, non, il faut réserver d'avance et se poser des questions sur l'âge, le poids, la grandeur, les incapacités. Si c'est des personnes aveugles, par exemple, il faut en tenir compte. C'est beaucoup fait à la planification. Ou ce que là, après ça, on va trouver des stratégies pour que les personnes puissent avoir retiré le plus possible de l'activité de plein air. C'est sûr qu'il y a des activités qu'on peut pas faire avec quelqu'un qui est à faible mobilité. Par contre, le contact avec la meute, ça peut toujours se faire. Ils sont toujours autour de nous, sont nos meilleurs collaborateurs. Alors, le contact avec la ferme, les animaux de la ferme, ça peut se faire en tout temps, puis pour tous les âges.
Quelle est l'approche particulière avec des gens qui présentent une déficience visuelle?
Par exemple, on va travailler plus sur l'aspect kinesthésique, le toucher, le fait aussi par exemple, c'était des enfants qu'on a eus déjà, alors on les a mis sur les skis, on les fait sentir les transferts de poids avant même qu'ils soient sur le traîneau comme tel. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va les préparer. Le toucher est super important. Et toutes les autres sensations, à part le visuel, comme la raison, vont être stimulées.
Oui. Maintenant, pour quelqu'un qui vit avec une déficience intellectuelle, le contact avec le chien, j'imagine qu'il faut y aller peut-être par étapes, plus doucement. Comment vous procédez pour ces gens-là?
C'est super important parce que s'il y a une incompréhension de la façon dont communiquent les chiens, c'est sûr qu'il va avoir ils peuvent avoir des peurs, des anxiétés face à ça. Alors nous, on fait pour toute personne, quand ils réservent, on veut savoir si s'il y a une déficience intellectuelle, on va demander l'âge chronologique, développemental plutôt que chronologique, comprenez? Mm. On va poser ces questions-là. On va demander aussi, est-ce qu'ils ont des peurs? Est-ce qu'ils ont déjà des contacts avec les chiens? Et si c'est pas le cas, mais effectivement, on va l'approcher de en toute douceur, et il va y avoir quelqu'un qui va être là à l'accueil pour commencer à les introduire à nos chiens les plus dociles,
ouais.
Les plus faciles à introduire. C'est sûr que, moi, je dis toujours, on ridiculise jamais quelqu'un qui a peur. C'est plus une incompréhension de comment il communique. Alors, un chien qui jappe peut faire peur à un enfant qui comprend pas ce qui se passe, pense qu'il jappe après eux parce qu'ils sont fâchés. Mais là, on va expliquer différents rôles des chiens. Par exemple, un chien qui jappe est en train de nous avertir. Il y a quelqu'un qui arrive qu'on connaît pas.
Oui, ben oui, aussi alors, simple que ça.
C'est un peu en démystifiant comment ils communiquent, en même temps aussi en décelant qu'est-ce qui est dangereux chez un chien. Puis comment on peut savoir, par exemple, les oreilles penchées, la queue penchée. Mm-hmm. C'est des exemples qu'on va donner pour savoir que le chien, quand il veut pas t'approcher, tu t'insistes pas de l'approcher.
Mm-hmm.
C'est sûr qu'on va tenir compte de l'âge développemental. Il y a des choses qu'on peut expliquer avec des marionnettes aussi. C'est plus facile, c'est plus facilitant quand on sale un objet tiers avant même de rencontrer le chien. On peut le faire pour des gens, des jeunes qui ont vraiment peur et qu'il faut l'approcher d'une façon plus d'âge préscolaire, par exemple.
Ouais. Et c'est particulier chez Kinana parce que vous évoluez pas avec n'importe quel type de chien. Ce sont des chiens qui vivent en meute. Donc, l'explication aussi de cette particularité-là, Carole.
Oui, tout à fait. Bien, on a beaucoup rescapé des chiens qui, bon, soit dans des refuges ou qui allaient se faire euthanasier, parce que les huskies, c'est des chiens qui ne tolèrent pas d'être seuls. Alors, ce type de chien en appartement, c'est faut vraiment qu'il soit investi beaucoup au niveau athlétique parce que ils ont besoin d'être fatigués. C'est des marathoniens. Fait que on faut tenir compte de c'est comme des hyperactifs de la race canine, si je peux m'exprimer comme ça. Il faut qu'ils fassent beaucoup d'exercices. Puis en plus, il faut qu'ils soient beaucoup avec le maître. Alors, c'est des chiens qui ont été abandonnés ou donnés ou parce que c'est beaucoup de travail d'avoir ce type de chien-là à la maison. Et on fait vraiment la différence avec cet esprit d'équipe pour eux. D'être laissés seuls, c'est comme si on les abandonnait.
Ouais. Mm-hmm. Le maître chez vous, Carole, c'est votre... Ben, chez vous, chez Kinadap, là, je pense qu'il faut, il faut le préciser. C'est votre époux qui est kinésiologue. Vous êtes psychoéducatrice.
Le chef de meute n'a pas quatre papes, il y a deux papes.
Oui, c'est ça, voilà. Comment vos formations, chacun de votre côté, ont pu amener un petit plus, là, ou peut-être même un gros plus chez Kinadap?
Bien, d'abord, c'est l'acceptation du vivant, hein, dans le sens que chacun vient avec ses forces et ses faiblesses. Puis les huskies étaient souvent, ils ont la qualité de leurs défauts. Alors, c'est de les utiliser pour ce qui sont le meilleur. Mais en fait, quand on travaille en réadaptation ou qu'on travaille pour aider les personnes qui ont des problèmes d'adaptation, c'est un peu ça aussi qu'on fait. On part de où sont les personnes pour qu'on les accepte dans leur entièreté. Puis après ça, on leur trouve des façons de se développer qui tient compte de ses limitations, qui tient compte aussi de ses forces et de ses intérêts. Alors, c'est un peu comme ça. Fait que dans le fond, la vision est la même. On a, c'est beaucoup moins complexe de travailler avec des chiens, c'est sûr, mais c'est un peu un grand respect de la vie, si on veut, peu importe d'où... Quelles sont nos limitations puis nos forces?
Mm-hmm. Vous parliez de réadaptation, donc il est possible d'aider quelqu'un, certaines personnes à la réadaptation suite à différentes blessures ou accidents par le traîneau à chien.
Oui, c'est sûr que de la réadaptation, c'est beaucoup fait avec un plan d'intervention. C'est plus spécifique. On a un objectif à atteindre et tout ça. Oui, ça peut se faire. Il y a des préalables, bien entendu, importants sur la forme physique et la capacité d'endurance et tout ça, avant de mais le prétexte peut être aussi de promener les chiens. Quelqu'un qui a besoin d'augmenter son endurance dans une activité, bien, le fait qu'il fait du canicross avec un chien pourrait augmenter cette endurance-là, vous comprenez? Fait que le côté kinésiologique, entraînement des chiens, puis il y a beaucoup à apporter cet aspect-là, Mais en même temps, on a déjà fait de la réadaptation aux personnes qui étaient passionnées par les chiens. Et le fait de circuler à travers les chiens, de faire certains mouvements comme brosser, ça peut être très valorisant pour eux parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose d'utile. Mais en même temps, ils augmentent leur capacité ou leur habileté dans un contexte de réadaptation, par exemple.
Et même d'arriver à pouvoir approcher les chiens hein, lors d'une discussion préalable. Carole, je vous parlais, moi, j'ai peur des chiens. Mm-hmm. Donc, vous me dites, ben oui, vous pouvez venir, pas de problème, on va vous apprendre cette approche-là. C'est une forme un peu de réadaptation, quelque part, du moins, de pouvoir approcher ses peurs. Là.
Oui, 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 c'est sûr que c'est une approche qui est pas qui amène le bien-être de bien des façons, je vous dirais.
Ouais.
C'est une approche qui est respectueuse d'abord. Et moi, j'aime mieux, je dis des fois, les personnes qui ont peur, j'aime mieux les personnes qui ont peur, comme ça, ils foncent pas dans la bulle du chien, donc ils vont s'apprivoiser un et l'autre. Puis comme on a des chiens qui viennent un peu partout, il y en a qui ont encore peur des humains, donc c'est rassurant de savoir, ah oui, lui aussi a peur, ah oui, c'est lui aussi, il n'est pas à l'aise avec moi. Puis c'est souvent ces chiens-là que c'est plus facile pour la personne à se réapproprier, si on veut, ou se sentir plus à l'aise avec des chiens qui ont peur, puis comment on les apprivoise tranquillement.
Mm-hmm. Carole, lors de l'introduction, j'ai énuméré quelques bienfaits du contact avec la nature, le plein air hivernal, aussi pour la santé. Mm-hmm. Est-ce que ce sont des observations que vous avez également pu faire au cours des 11 années chez Kinada?
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je trouve votre lien super pertinent. Sans parler de théorie, on dit que notre démarche, si on veut, mon conjoint et moi, est vraiment basée sur ces sciences-là, cette approche-là qui disait aussi, oui, sur l'humeur, mais aussi sur la capacité physique, l'oxygénation du cerveau. Tout ça rend disponible la personne à l'apprentissage.
Mm-hmm.
Et ça, je l'ai observé tout au long de notre carrière. Et puis, c'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser un grand terrain de jeu en plein air pour développer la personne.
En terminant, Carole, chez Kinada, puis il n'a pas que des chiens. Il y a des chevaux, des poules, je pense. Donc, il y a toute l'introduction à la ferme également que l'on peut retrouver chez vous.
Oui, oui. Mais malgré que vraiment nos collaborateurs, c'est vraiment nos chiens.
Mm-hmm.
Nos chevaux, c'est des chevaux de trait, donc on peut pas les monter, mais ils sont beaux à regarder. Puis aussi, ils ont servi à l'histoire, parce qu'on lit beaucoup la culture aussi, nos préalables, toute notre historique qui a développé l'Amérique du Nord. Fait qu'il y a un volet historique aussi culturel à notre approche.
Et il y a d'autres activités que les balades en traîneau à chien. Vous parliez tout à l'heure de courses avec les chevaux, avec les chiens plutôt, puis aussi d'autres activités. Là, il suffit d'aller sur votre site kinadap.com pour en savoir davantage.
Vous pouvez juste venir en randonnée aussi. Alors, ça aussi, c'est accessible, du canicross, du vélo de montagne. En fait, tout prétexte pour jouer dehors.
Ouais, voilà. Ben, on vous souhaite de mettre le bout du nez dehors souvent, Carole Turcotte, pendant cette saison hivernale. Mais j'imagine qu'avec les chiens, vous en avez combien, non, encore?
On a 84 chiens. Mais
ouais,
je vous dirais, là, par rapport à l'hiver, c'est important de bien s'habiller et d'avoir des multicouches. Puis ça, je pense que c'est important pour les personnes à capacité réduite, parce que comme ils bougent moins, il faut vraiment bien se faire conseiller pour bien s'habiller.
C'est des questions auxquelles vous pouvez répondre lorsqu'on vous appelle?
Oui, tout à fait.
Très bien. Alors, kinadapt.com, ça sera sur notre site web. Carole Turcotte, je rappelle, vous êtes psychoéducatrice et cofondatrice de Kinadapt.
Oui, fait plaisir.
Au revoir.
Bon hiver!
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Docteur Marianne Beaudin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgienne pédiatrique et chef du service de traumatologie au CHU Sainte-Justine. On parle aujourd'hui de cette initiative La Maison de Justin qui vient d'un constat, je le disais en introduction, Dr Beaudin, un peu affolant, bouleversant. Plus d'un tiers des enfants adolescents, pré-ados qui arrivent chez vous, donc dans le département de traumatologie, là, c'est suite à des accidents qui se sont passés à la maison. Donc, c'était un objectif, ce projet-là, de contrer un petit peu ces blessures-là qui peuvent être facilement évitées.
Oui, puis en fait, encore plus chez nos enfants, encore plus jeunes, là, finalement, chez les ceux qu'on appelle les trottineurs, là, qui ont entre 1 et 4 ans, c'est ceux qui passent le plus de temps là à la maison proportionnellement parce qu'ils n'ont pas commencé l'école encore. Puis c'est eux qui sont le plus à risque des blessures à la maison parce qu'ils sont curieux, ils sont pas encore tout à fait à l'aise avec leur environnement, donc ils vont partout, ils touchent à tout, ils sont pas conscients des dangers, donc c'est eux là qui sont vraiment à risque là, des blessures à la maison. Mmh.
Vous parlez des tout-petits qui ne sont pas nécessairement conscients des dangers. Est-ce que vous avez parfois l'impression que les parents également ne sont pas conscients de ces dangers-là que l'on peut retrouver à la maison?
Pas nécessairement, effectivement, parce que pour nous, les adultes, bon, les choses qui sont dangereuses nous apparaissent comme évidentes. Ouais. On pense pas que nos enfants vont aller nécessairement là explorer de ce côté-là. On pense aussi qu'on les surveille tout le temps, parce que, bon, la plupart du temps, quand il y a un enfant de cet âge-là à la maison, il n'est jamais seul, donc il est observé par un parent, mais on peut pas penser qu'à chaque seconde de chaque journée, on aura toujours nos deux yeux rivés sur les enfants. On a des tâches à accomplir, des tâches ménagères et tout ça. Donc, il suffit là, vraiment de seulement quelques secondes d'inattention pour que l'enfant se blesse là, avec n'importe quelle chose qu'on retrouve dans une maison tout à fait ordinaire.
Oui. Et j'imagine que ça devenait une priorité de mettre un projet de l'avant parce que ces blessures-là, elles ont des impacts après sur le développement de l'enfant. Il y a
oui,
des conséquences.
Puis ça représente un bon nombre d'enfants aussi. Comme vous dites, c'est le tiers, ça peut même aller jusqu'à la moitié de tous les enfants qui sont hospitalisés à Sainte-Justine chaque année. Donc, c'est 500 enfants qui sont hospitalisés pour trauma à Sainte-Justine. Le tiers à la moitié, là, ça peut aller jusqu'à 250 enfants là, qui sont victimes de blessures à la maison. Puis en termes de conséquences, ben on retrouve là des traumatismes crâniens, beaucoup de brûlures, aussi des blessures orthopédiques là, de type fracture. Donc, toutes des choses qui peuvent occasionner là, un séjour à l'hôpital assez prolongé, des visites répétées en clinique, puis même possiblement des séquelles là, qui peuvent perdurer là, à long terme.
Mm-hmm. C'est quoi la Maison de Justin, Dr Beaudin?
Donc, la Maison de Justin, c'est un jeu virtuel qu'on a développé en partenariat avec la Société des arts technologiques. C'est un jeu qui utilise la technologie de l'Oculus Rift. Donc, c'est une lunette pour une immersion totale. Donc, l'utilisateur qui met la lunette va voir vraiment un environnement en trois dimensions, puis peu importe où il va le regarder, en haut, sur les côtés, en bas, il va se retrouver dans l'environnement virtuel. Puis l'environnement virtuel qu'on a choisi, c'est la maison de Justin. Mm-hmm. Puis ça représente une maison, là, comme je disais, tout à fait ordinaire, comme la maison de tout le monde, là, où on peut retrouver les dangers. Puis c'est deux joueurs qui vont jouer en interaction pour une durée d'à peu près 7 minutes. Puis notre public cible pour ce jeu-là, c'est vraiment les parents ou mm-hmm. n'importe qui aurait à s'occuper de jeunes enfants à la maison. Donc, ça peut être les grands-parents, les amis, toute la famille. Puis les joueurs, un va jouer le rôle de Justin, qui est notre petit pirate là, d'à peu près 3-4 ans, qui se promène dans la maison, qui explore, qui a des accidents, puis qui va se blesser. Puis l'autre joueur va jouer le rôle du papa de Justin, qui lui aura comme rôle d'identifier les dangers puis de les prévenir.
Mm-hmm. Donc, une façon de se mettre dans la peau d'un bambin de 3 ou 4 ans et de voir la vie comme on la conçoit à cet âge-là.
Exactement. Donc, on veut développer là, la vision empathique chez le parent pour que le parent comprenne à quel point les dangers peuvent paraître attrayants pour les enfants.
Ah, oui, oui.
Donc, par exemple, les batteries qui peuvent causer des graves dommages là, si on les avale vont être des petites menthes. Les médicaments qu'on retrouve là, sur la commode dans l'entrée, pour Justin, le petit pirate, ben c'est des bonbons. Puis le fil de la cafetière qui pendouille là, puis qu'on peut tirer, c'est bouillanté, ben c'est une échelle de corde pour le pirate là, dans laquelle il veut monter. Donc tout peut avoir l'air amusant, attrayant, puis c'est pour ça que c'est aussi dangereux pour ces enfants-là, la maison, parce que tout est sujet à un nouveau jeu ou un...
Oui. En tout cas, je vous écoute, Dr Beaudin, et je me dis, mais quelle prise de conscience! Parce que, en effet, on ne voit... Et c'est pas pour mal faire, je ne pense pas que les parents soient négligents, mais en effet, il y a des choses en tant que parents qui nous échappent. Et cette façon de le voir par les yeux d'un enfant, c'est bien sûr une façon vraiment là, de mieux comprendre leur univers. Maintenant, quels seraient des exemples, Dr Beaudin, de comportements qui seraient sécuritaires à la maison?
Donc, dans la maison de Justin, on retrouve 11 dangers, qui sont les dangers qu'on a identifiés comme les plus fréquents. Mm-hmm. Puis, pour chacun de ces dangers-là, on propose une méthode sécuritaire, là, justement, pour éviter le danger.
Ah, ouais.
Par exemple, utiliser des barrières pour les escaliers, pour éviter les chutes dans les escaliers. Ranger les produits ménagers, les médicaments dans des armoires qui vont être munies de loquets. Un danger auquel on pense pas nécessairement, mais la télévision, par exemple. Donc, la télévision, pour les écrans plats, idéalement, on devrait les fixer au mur ou au moins les retenir avec une courroie au mur parce que la télévision peut basculer sur l'enfant puis causer des dommages sévères. Donc, c'est plein de dangers là, comme ça qu'on a identifiés dans la maison là, à l'aide de la littérature mm-hmm. là, puis de ce que les statistiques nous démontrent, finalement.
Donc, un jeu qui a été, bon, vous nous l'avez dit tout à l'heure, créé en collaboration avec la SAT, mais j'imagine conseillé par des médecins comme vous, qui travaillent au quotidien avec des enfants qui ont vécu un traumatisme.
C'est ça. Donc, eux ont fourni là, tout ce qui est l'expertise technologique. Puis nous, notre équipe dans le service de traumatologie, donc nos infirmières cliniciennes en trauma, moi-même, d'autres consultants, puis aussi des participants du public, parce que la Société des arts technologiques, on a utilisé l'approche qui s'appelle le Living Lab. Donc, on a fait plusieurs ateliers de co-création au courant des deux dernières années où on invitait là, des gens du public à donner leur opinion avant de statuer, par exemple, sur telle ou telle méthode d'exploitation du jeu. Donc, ça a été un processus sur 2 ans où on a vraiment fignolé là, le produit comme il nous semblait le plus approprié pour offrir au public ensuite.
Dr Beaudin, il nous reste que quelques secondes. J'invite donc les gens à pouvoir prendre connaissance de ce jeu-là aux Galeries Terrebonne en janvier 2016. On laissera aussi Place Bonaventure du 7 au 10 avril 2016. Et puis, ben, parce qu'en fait, le jeu, on ne peut pas, bien sûr, se le procurer immédiatement. Dr Beaudin, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler.
Merci à vous.
Bonne année 2016.
Bonne année, bye-bye.
Au revoir. Nous, c'est rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.